VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manelakiza, de retour avec vous, ravi de vous retrouver dans ce journal. Le massacre fin mars de près de 160 habitants dans un village peu de Ogossagou dans le centre du Mali a été une attaque planifiée, organisée et coordonnée et pourrait être qualifiée de crime contre l'humanité, a estimé jeudi la mission onusienne au Mali, la MINUSMA. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le 23 mars, au moins 157 membres de la communauté Peul d'Ogossagou, dont des femmes, des enfants, ont été tués par un groupe composé d'au moins une centaine d'hommes armés, identifiés comme des chasseurs d'ours traditionnels. Ils étaient accompagnés par des dizaines d'hommes en tenue militaire. Ce sont eux qui ont mené une enquête planifiée, organisée et coordonnée, selon les conclusions préliminaires publiées ce jeudi par la mission d'enquête spéciale de l'aménagement. L'aménagement avait dépêché une mission d'enquête à Ogossagou du 25 au 29 mars dernier après cette tuerie, la plus grave qu'ait connue le Mali depuis 2012. L'attaque d'Ogossagou s'inscrit dans un contexte de nombreuses autres attaques similaires par des groupes de chasseurs traditionnels à l'encontre des populations Peul, selon l'aménagement. Ainsi, les atteintes aux droits de l'homme documentées à Ogossagou, prises dans leur contexte, pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité s'il est démontré que cette attaque s'inscrivait dans un contexte d'une attaque systématique ou généralisée contre la population civile. Selon les rapports, les enquêteurs ont pu localiser et confirmer l'existence d'au moins trois fosses communes contenant au moins 40 corps dans chacune des deux premières et 70 corps dans la troisième. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours dans le Sahel, la chancelière allemande Angela Merkel, qui effectue une mini-tournée sahélienne, a souligné l'importance de la coopération avec Niamey pour lutter contre l'immigration, dont le Niger est une plaque tournante. La chancelière est aussi revenue sur la situation sécuritaire. Les précisions à Niamey de Abdelazak Idrissa.
La chancelière allemande a déclaré être revenue 2 ans après sa première visite au Niger pour voir l'évolution des rapports entre son pays et le Niger. Et son constat est tout simple.
Nous félicitons aujourd'hui, il s'agit de nouveaux projets dans le domaine de la sécurité. Entre-temps, le conseiller militaire est arrivé, comme nous avions promis. Depuis ma première rencontre, nous en avons parlé, nous avons coopéré avec le ministère de la Défense, ensemble avec les Pays-Bas. Nous avons décidé une aide à l'équipement pour les forces de sécurité dans la région de Touao. Et en 2020, nous prévoyons un projet similaire pour la région de Zinder.
Sur les motivations de sa présence au sommet extraordinaire du G5 Sahel, la veille au Burkina Faso, la chancelière allemande a répondu ceci.
Ça motivé, c'est parce que nous, du côté européen, nous avons confirmé d'aider à l'équipement du G5 Sahel et parce que cette table de coordination, donc ce centre de coordination, est implanté à Bruxelles et moi, personnellement, j'ai voulu vérifier où est-ce que nous en sommes, quelles sont les difficultés. Parfois, certains points peinent à se matérialiser, dure plus longtemps dans la mise en œuvre. Nous avons tenu les engagements allemands, mais à l'échelle internationale, nous avons toujours des points sur lesquels nous devons travailler. Il y a d'autres partenaires qui participent. Hier, nous sommes échangés sur les questions de fonds. Dans quelques jours, il y aura une rencontre des ministres des Affaires, des Affaires étrangères et des Défenses de l'Union européenne et du G5 Sahel. Et de ma propre expérience, je pourrais encore une fois parler à mes ministres pour dire à ce qu'il faudra veiller.
Le président nigérien Issoufou Mahamadou a réaffirmé à Angela Merkel ce que lui et ses pairs du G5 Sahel attendent de la communauté internationale par rapport à la lutte contre le terrorisme.
Le combat que nous menons ici au Sahel contre le terrorisme, c'est un combat que nous menons pour le monde, pour la sécurité mondiale. Je constate que la chancelière a bien compris cela et qu'elle fera le plaidoyer auprès des autres pays afin que un soutien accru soit porté au pays du Sahel afin que le pays du Sahel puisse faire face à cette menace et surtout par rapport à l'urgence de sortie de la crise libyenne et une sorte de stabilisation pour le pays du Sahel.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le calme était revenu au Bénin hier soir pendant que la Cour constitutionnelle donnait les résultats définitifs des élections législatives après deux jours de violentes manifestations post-électorales réprimées par des tirs à balles réelles et qui ont fait au moins deux morts selon un nouveau bilan établi par l'AFP. Le taux de participation est de 27,1%, a déclaré jeudi soir Joseph Djogbenou, le président de la Cour constitutionnelle, soit un chiffre plus élevé que les 23% précédemment évoqués par la commission électorale dans les résultats préliminaires. En RDC, la justice a convoqué pour lundi l'opposant Martin Fayoulou qui continue de contester la victoire du président Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre. La raison, fournir des renseignements utiles selon une invitation de la police judiciaire jeudi consultée par l'AFP. Lundi, dans une lettre, le procureur général près la Cour de cassation, Fleury Kabangé, avait transmis au commissaire général de la police judiciaire pour, je cite, « investigation et me faire rapport une plainte contre l'opposant Fayoulou accusé d'incitation à la haine tribale de massacre des Baluba, la tribu du président Félix Tshisekedi, pillage, etc. » Fin de citation. En Ouganda, des diplomates de l'Union européenne, des États-Unis et de 14 autres pays ont fait part aujourd'hui dans un communiqué de leur vive inquiétude face aux récentes attaques des autorités contre la liberté de la presse et celle de manifester en Ouganda. Une immense foule de Soudanais s'est réunie hier devant le QG de l'armée à Khartoum pour une marche d'un million de personnes afin de réclamer un transfert du pouvoir aux civils. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Les ponts et les rues menant au complexe militaire situé dans le centre de Khartoum étaient noirs de monde. Dans une ambiance festive, des chants révolutionnaires résonnent à travers des enceintes sur le lieu du sitting où campent depuis le 6 avril des milliers de Soudanais. « Que tu chutes ou non, nous resterons », scandent les contestataires en référence au Conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar El-Béchir. Les deux camps se sont mis d'accord pour établir un conseil conjoint, appelé aussi Conseil souverain, pour remplacer le Conseil militaire. Mais les négociations échoppent sur le nombre de membres et sa composition, chaque parti insistant pour être majoritaire dans cet organe. L'Alliance pour la liberté et le changement qui regroupe les principales formations de la protestation a présenté jeudi au Conseil militaire un document proposant d'établir une administration civile avec des organes exécutifs, législatifs et judiciaires. Sati El Hadj, un des chefs du mouvement, a déclaré que l'Alliance voulait une réponse à sa demande dans les 72 heures.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a appelé à se battre avec force contre l'antisémitisme moins d'une semaine après une fusillade qui a fait un mort dans une synagogue près de San Diego en Californie. Le point avec Abdelrahman Dia. Nous nous excusons de ce problème technique. Nous n'aurons pas la voix de Abdelrahman Dia. Et en Afrique du Sud, malgré la fin de l'apartheid il y a 25 ans, la question raciale demeure à Cape Town. Denis Kadima, directeur de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique, a expliqué l'enjeu des législatives. Nous connaissons un problème technique. Poursuivons ce bulletin d'information avec le Venezuela où le président Nicolas Maduro et l'armée, pilier du pouvoir au Venezuela, sont passés ce jeudi à l'offensive contre tous les putschistes deux jours après une tentative de soulèvement marquée d'un groupe de soldats passés dans le camp de l'opposant Juan Guaido. La tentative de soulèvement de mardi s'est dégonflée au cours de la journée. Quelques 25 militaires rebelles ont demandé l'asile à l'ambassade du Brésil à Caracas. Luis, puis Leopoldo López, une des figures de l'opposition qui était assignée à résidence depuis 2017 et était apparu aux côtés de M. Guaido et des soldats insurgés, s'est réfugié dans l'ambassade d'Espagne.
Pierre de l'info sur VOA Afrique.